jeux vidéo, là, c'est pas le rachat de Blizzard par Microsoft, c'est pas des pacotilles, là, c'est la vie du monde.
Enfin, oui, moi, ça me... oui, effectivement, et selon le Bureau d'animation et d'information logement BAI du Québec métropolitain, l'an dernier, le tribunal administratif du logement, sur les 320 appels, sur les 320 en fait refus de d'hausse du loyer qu'il avait écouté, seulement 7 avait eu une hausse justifiée. Voilà. Donc, on vous rappelle, si jamais votre propriétaire vous invite à payer plus cher pour votre loyer, vous avez le droit de refuser l'augmentation si elle n'est pas justifiée. En 2020-2021, l'augmentation justifiée, selon le tribunal administratif du logement, était de 0,8%. Donc, faites le petit calcul. Si votre propriétaire vous demande des augmentations de 4, 5, 6%, c'est trop haut. Merci beaucoup, Charles-Étienne, d'avoir été avec nous pour cette émission. C'était vraiment très, très palpitant.
Ben merci, ça fait plaisir. C'est très, très palpitant. C'est un beau mot, oui.
Oui, effectivement. On va vous laisser entre de bonnes mains. C'était Guillaume Médard et Charles-Étienne Ostigui pour Un Fort dans le Midi, votre quotidienne actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Tous les jours, on en fait. Tous les jours, on en parle. Mais on s'en rend pas compte. En fait, c'est un peu inconscient. Notre vie en société est marquée par, eh oui, la politique. Chiz 94.3 accueille les mercredis juste de la politique, autant pour ceux qui ne la comprennent pas que pour les pros et fans finis. Avec moi, Félix Bouffard et mes collaborateurs, on décortique, analyse et réfléchit la politique locale. Allez, venez participer à la discussion. Juste de la politique, en direct les mercredis 14h et en balado sur chiz.ca.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leurs sujets d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du jour. Bonne écoute.
Donc, bon midi à tous les auditrices et auditeurs. C'est avec grand plaisir que nous reprenons enfin l'émission À ta santé pour la session hivernale. Mon premier invité de la saison est M. Philippe Landreville, qui est chercheur et professeur en psychologie à l'Université Laval. Donc, M. Landreville travaille notamment au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec, dans le Centre de recherche en santé durable, ainsi qu'au CHU de Québec. Il a été aussi directeur du doctorat en psychologie de l'Université Laval entre 2014 et 2017, où il enseigne également. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation, puis bienvenue à l'émission, M. Landreville.
Bonjour, Catherine.
Donc, M. Landreville, bien que la population soit de plus en plus vieillissante, on vit actuellement dans une société qui, malheureusement, accorde beaucoup d'importance à la jeunesse et à la productivité, entre autres. Qu'est-ce qui vous a amené, en fait, au fil du temps, à vous intéresser autant à la tranche d'âge, disons, des 65 ans et plus, dans vos recherches? Puis, Pourquoi justement avoir consacré votre carrière à celle-ci alors qu'on a l'impression que c'est une clientèle justement qu'on entend moins parler?
C'est une bonne question, mais en fait, on en entend beaucoup parler, je trouve, depuis 2 ans, des aînés. Hein. Depuis la pandémie s'est installée, on en parle beaucoup. En ce qui me concerne, je dirais qu'il y a comme 3 principales raisons. Puis c'est intéressant que tu me poses la question parce que je m'étais jamais vraiment arrêté à ça. Moi, je pense qu'il y a un peu de hasard, il y a par intérêt, puis il y a aussi une part d'opportunisme là-dedans en ce qui me concerne personnellement. Par hasard, je dirais, parce que quand moi j'étais étudiant gradué, étudiant à la maîtrise ici à l'Université Laval, je m'intéressais déjà à la psychologie clinique. Je m'intéressais à la dépression en particulier. C'était un sujet qui était de plus en plus étudié en psychologie clinique. C'était l'époque aussi où il y avait des développements importants au niveau de la psychothérapie cognitive, psychothérapie comportementale. Donc, c'était très actif dans ce domaine-là. Et donc, j'avais terminé ma maîtrise, j'étais intéressé à continuer au doctorat sur le même sujet, toujours sur la dépression. Et j'avais rencontré Jean Lézina, qui était professeur à l'université ici, qui lui aussi s'intéressait à la dépression, mais s'intéressait plus précisément à la dépression chez les aînés. Puis j'avoue que ça a piqué ma curiosité. J'aurais pas pensé nécessairement étudier la dépression dans cette population-là. Moi, je m'intéressais aux adultes en général, mais j'avoue que ça a été une porte qui s'est ouverte pour moi. Et puis c'était un peu de la chance, finalement, si on regarde ça de cette façon-là. Je dirais aussi par intérêt, à l'époque où j'étais étudiant, on commençait à étudier le vieillissement. En fait, il y avait déjà pas mal de trucs qui avaient été faits au niveau de la cognition, l'intelligence, la mémoire, le raisonnement, tout ça, mais beaucoup moins au niveau de la psychoclinique. Hein. En fait, pendant longtemps, on a cru que les aînés ne pouvaient pas nécessairement bénéficier d'une psychothérapie, étaient très rigides, que leur personnalité était vraiment fixée. Donc on s'intéressait peu à eux du point de vue de la psychologie clinique, je dirais. Et il y avait beaucoup de questions sans réponse. Par exemple, est-ce que les aînés sont plus ou moins déprimés? Est-ce que c'est normal d'être déprimé à un âge avancé? Est-ce que les aînés sont plus ou moins heureux comparativement aux personnes plus jeunes? Donc c'était un champ de recherche qui était ouvert. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient été faites. Il y avait beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de croyances. Et donc, pour un chercheur comme moi, qui était un jeune chercheur, il y avait plusieurs choses qui étaient possibles. Tout était possible. On pouvait vraiment, je dirais, défricher. Puis c'était l'époque aussi où il y avait déjà des pionniers dans le domaine. Des gens comme Dolores Gallagher-Thompson, qui était une des premières à faire une étude sur le traitement psychologique de la dépression chez les aînés, puis qui a obtenu des résultats très intéressants, puis a suivi d'autres personnes comme Linda Terry, qui s'est intéressée à la même problématique, mais avec une approche un peu différente, plus orientée sur les comportements. Donc, ces pionniers-là ont été très importants, puis je dirais que moi, ça l'a vraiment entraîné mon intérêt à poursuivre dans ce domaine de la psycho, on pourrait dire la psychogérontologie clinique. Puis finalement, je dirais par opportunisme, parce qu'il y a plusieurs portes qui se sont ouvertes pour moi en très peu de temps. Quand j'ai commencé mon doctorat, déjà mon directeur de recherche, Jean Vézina, m'a invité à travailler pour lui comme auxiliaire d'enseignement. Puis à la même époque, le cours que lui donnait, qui s'appelait puis qui s'appelle toujours psychologie gérontologique ici à l'Université Laval, a été offert à plus d'une session. Et puis là, on cherchait quelqu'un pour le donner. Et on a pensé à moi. Puis moi, j'étais super enthousiaste de faire ça. Je l'avais jamais fait. J'avais jamais enseigné de ma vie. Ça a été toute une expérience. Puis j'ai beaucoup appris en donnant un cours. Mais je dirais que c'était une très belle opportunité parce que ça me permet de faire un peu de sous, mais en même temps de développer des habiletés de communication, de vulgarisation, d'encadrer des étudiants. Il y a aussi des offres, on peut dire des offres d'emploi qui sont arrivées très rapidement avant même que j'aie terminé mon doc. Par exemple, il y avait un centre de recherche qui existe toujours, centre de recherche sur le vieillissement à l'Université de Sherbrooke qui s'est développé très rapidement, qui était dirigé par Régent Imbert à l'époque. Et Régent et son équipe étaient à la recherche de nouveaux chercheurs, de jeunes chercheurs, et avaient ouvert un concours pour en recruter. Puis j'avais postulé, puis j'avais été retenu. Et on m'avait demandé d'aller faire un postdoc dans mon domaine, puis de revenir, puis à ce moment-là, de postuler comme chercheur. Et puis j'ai fait des contacts avec des gens à l'Université de Stanford en Californie, puis j'ai même obtenu une bourse de postdoc. Donc ça, c'était très, très stimulant. Mais en même temps, on m'a aussi approché pour devenir prof à l'Université du Québec à Trois-Rivières dans le domaine du vieillissement. Fait que là, j'avais un beau problème et j'avais toujours pas terminé mon doctorat. Donc ça faisait beaucoup de belles opportunités. Mmh. Finalement, j'ai décidé d'aller de l'avant avec le poste de professeur, puis j'ai jamais regretté. Ça a été vraiment une super expérience. J'ai été là 3 ans, puis il y a un poste qui s'est ouvert ici à l'Université Laval par la suite en 94, je crois. J'ai postulé, je l'ai obtenu, et puis je suis rendu maintenant plus de 30 ans plus tard, toujours professeur ici à l'Université Laval. Donc c'est un mélange de différentes choses comme ça qui ont fait que je me suis intéressé au vieillissement.
C'est une belle histoire, en tout cas, c'est un beau parcours. On entend, mais en fait, depuis, vous l'avez mentionné en début, en introduction, en fait, là, que depuis 2 ans, on entend un petit peu plus parler justement de la dépression, puis je pense que tout le monde a été très touché aussi de la situation dans les CHSLD, entre autres. Là, c'est comme ça nous avait un peu ouvert les yeux là, par rapport à cette réalité-là qui potentiellement existait déjà, mais qui a été exacerbée par la pandémie. On a l'impression aussi... Du moins, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que depuis quelques années, on essaie de démocratiser la dépression. Peut-être plus chez les adultes ou chez les jeunes, tu sais, on veut en parler davantage, c'est moins tabou. Mais on dirait que chez les aînés, c'est pas un sujet qu'on ose parler. Vous avez parlé tantôt de normalité. Est-ce que, justement, on a tendance à se dire qu'en vieillissant, il y a plein de petits problèmes qui, finalement, sont normaux pour l'âge?
C'est un bon exemple, celui de la dépression, puis celui des problèmes de santé mentale peut-être en général, mais la dépression en particulier, parce que on a peut-être tendance à croire que les gens en vieillissant, étant donné qu'ils subissent plusieurs pertes, que ce soit leur rôle de travailleur, d'autres rôles comme ça, qui subissent aussi les conséquences de problèmes de santé, comme la perte d'autonomie, par exemple, que les gens âgés vont finalement, inévitablement, présenter des symptômes dépressifs ou même être carrément déprimé. Clairement, c'est pas le cas. Si on regarde les études épidémiologiques, ça montre que c'est pas nécessairement, je dirais, une pandémie, une épidémie très importante de problèmes dépressifs chez les aînés. En fait, si on regarde plus près ces chiffres-là, on voit que les taux de prévalence chez les aînés sont plus faibles que chez les personnes, que chez les adultes plus jeunes. Bon, il y a plusieurs raisons pour expliquer ça, mais ça montre que c'est pas nécessairement le cas que tous les gens âgés vont développer un trouble dépressif, mais il peut y avoir l'idée que parce qu'il y a toutes ces circonstances-là qui peuvent favoriser l'installation d'une dépression, que les gens vont nécessairement devenir déprimés. Donc, je peux comprendre ça, mais c'est pas ce que les chiffres montrent. Et en fait, il est pas impossible que les gens en vieillissant, non seulement ils accumulent plusieurs de ces, peut-être de ces facteurs de risque-là, mais en même temps qu'ils développent, comment dire, une certaine protection par rapport aux problèmes de santé mentale comme la dépression et l'anxiété, parce que du fait de leur vieillissement, ils ont aussi développé une plus grande résilience. Ils ont appris à composer avec différentes circonstances de la vie difficile. Ils ont traversé des épreuves, ils ont développé des stratégies d'adaptation auxquelles ils vont recourir plus tard quand ils vont faire face à de nouvelles difficultés. Alors ça, faut pas perdre ça de vue. C'est peut-être une partie de l'explication pourquoi justement les gens sont en relativement... Puis là, je fais attention pour les temps, parce qu'il y en a quand même des gens qui développent des problèmes de santé mentale, mais sont en relativement bonne santé mentale si on regarde l'ensemble de la population âgée.
Puis ça m'amène à penser, en fait, là, bon, selon Statistique Canada, on apprenait récemment que la population du Québec passerait de 8,5 millions en 2020 à 9 millions d'habitants en 2027 et à plus de 10 millions en 2066. Donc, on s'en va vers une augmentation justement de la population finalement. Puis la proportion aussi des aînés dans la population totale passerait de 20% en 2020 à 27% en 2066. Puis on le sait, là, c'est la démographie va changer dans les prochaines années. Puis parallèlement à ces données, on sait que l'espérance de vie des Canadiens va continuer d'augmenter aussi, mais pas nécessairement la qualité de vie. Donc, on le voit, entre autres, là, des fois, il y a des gens qui vont être malades pendant 10-15 ans à l'été. Puis est-ce que vous avez l'impression que ça va être un enjeu là, dans notre société, notamment par rapport justement aux troubles de santé mentale?
Je sais pas trop par rapport aux troubles de santé mentale. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas évident qu'il y a nécessairement beaucoup plus de cas chez les aînés que chez les personnes plus jeunes. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas si préoccupant. Si on parle du vieillissement en général et des conséquences sur la qualité de vie, ben c'est sûr que là, c'est un peu plus complexe. C'est difficile de préciser qu'est-ce que c'est que la qualité de vie. Je pense que c'est un ensemble d'indices objectif, subjectif, probablement aussi en partie, qui peuvent changer. Je sais pas trop comment ça peut évoluer en fonction de ce que vous avez mentionné, de ce que tu as mentionné en termes d'augmentation du vieillissement dans la population. Mais moi, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais j'ai quand même l'impression que les conditions de vie des aînés sont beaucoup améliorées quand même, si on les compare à ce que c'était autrefois. Tu sais, on parlait de problèmes de santé. Rappelons-nous que l'accès à un système de santé universel, ça n'a pas toujours été présent. L'accès à un régime public d'assurance médicaments, ça n'a pas toujours existé. C'est des inventions qui datent à peu près de la moitié du 20e siècle. C'est pas si éloigné que ça, là. Le soutien financier de la part des gouvernements, c'est d'avoir un minimum garanti à la retraite, que ce soit le régime de rente du Québec, la pension de la sécurité de la vieillesse au cas du Canada, c'est des inventions relativement récentes. Donc, les gens qui atteignent la retraite peuvent avoir quand même un minimum garanti de revenus. Il y a des opportunités aussi pour les gens vieillissants. Je pense, justement, en parlant de la retraite, ça me fait penser que la retraite obligatoire, il n'y en a plus vraiment de retraite obligatoire au Canada, au Québec. En général, pour la plupart des provinces, les gens sont plus obligés de prendre leur retraite à un certain âge. Puis je pense que c'est une bonne nouvelle pour les retraités, pour les gens qui veulent prendre leur retraite, parce qu'ils ont l'occasion de pouvoir faire autre chose, de pouvoir profiter encore un peu de la santé qu'ils ont encore, des ressources qu'ils ont encore. Et l'inverse est vrai, les gens qui veulent continuer à travailler parce qu'ils sentent qu'ils ont la capacité de le faire, qu'ils ont la santé physique, la santé mentale, les possibilités sur le plan cognitif de le faire, peuvent encore le faire. Donc, je pense que c'est des bonnes nouvelles. Et il y a aussi des indications qu'au niveau de la satisfaction de la vie, ben en fait, que la satisfaction de la vie augmente en vieillissant. Ça, je pense, c'est un indice important parce que si on parle de qualité de vie, si le bien-être semble augmenter, c'est quand même important à considérer. Il y a des données de Statistique Canada qui datent de 2016 qui montrent que la satisfaction de la vie évolue de façon curvilinéaire en forme de U. Autrement dit, à partir de l'adolescence, ça diminue, mais à partir de la quarantaine, ça augmente jusqu'à l'âge de 80 ans. Donc, les gens âgés auraient un niveau de satisfaction de la vie quand même relativement élevé comparativement aux gens dans la quarantaine. Plus tard dans la vie, 85-90 ans, ça va avoir tendance à diminuer encore, probablement parce
qu'il y a des maladies justement chroniques ou
problèmes de santé. Mais c'est quand même pas rien de voir que la satisfaction de la vie, en fait, augmente. Donc, moi, je suis plutôt optimiste en général par rapport à ce qui attend les gens âgés là, dans les prochaines années.
OK. Bon, ben tant mieux. On aime mieux avoir une vision plus optimiste que pessimiste parce qu'on sait que ça va arriver, qu'il va en avoir plus aussi de plus en plus, justement. Donc, c'est malgré tout une bonne nouvelle. Puis, en 2004, justement, l'Université Laval, il y a une étude là, qui nous apprenait qu'environ 20 à 25 des personnes âgées étaient atteintes de problèmes de santé mentale. Vous sembliez dire que ben, c'est vrai que c'est pas toute la proportion là, de la population âgée qui souffrent de problèmes de santé mentale, mais est-ce que vous avez des données justement plus récentes à ce sujet-là?
Oui. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui ont des troubles de santé mentale, on ne peut pas le nier. Si on regarde des données québécoises, au Québec, l'étude la plus importante, elle a été réalisée par Michel Préville et collègues. Eux, ils ont fait une enquête auprès de près de 3000 personnes aînés. Ils ont publié les résultats en 2008, puis cette étude-là a montré que c'est 12 % de leur échantillon qui répondait aux critères du DSM. Le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Hein, c'est les principaux critères des troubles de santé mentale. D'un ensemble de troubles, donc il y a 12 % de leur échantillon qui répondait aux critères d'un ensemble de troubles qui étaient la dépression, la manie, troubles anxieux et dépendance aux benzos. Eux autres, ils ont sélectionné un certain nombre de troubles qu'ils croyaient peut-être plus pertinents à étudier dans la population âgée. Si on regarde plus spécifiquement pour certains troubles, la prévalence était 7 % pour les troubles d'humeur, 5 % pour les troubles anxieux. Donc, c'est quand même des taux assez importants. Puis c'est cohérent avec les résultats de d'autres enquêtes. Donc, si on regarde certains troubles en particulier, comme le trouble dépressif caractérisé, qu'on appelait autrefois dans le DSM le trouble dépressif majeur, les taux chez les gens qui vivent à domicile, donc les aînés dans la communauté, ça tourne généralement autour de 3 %. Mais chez les gens qui sont hospitalisés et les gens qui se retrouvent en centre d'hébergement, ben là, c'est des taux qui sont nettement plus élevés. Chez les gens qui sont hospitalisés, on parle d'autour 20 à 25 %. Puis chez les gens en CHSLD, ça tournerait plus autour de 10 à 40 %. Donc, c'est une fourchette
qui est assez variable.
Oui, c'est une fourchette qui est très, très large. Il faudrait voir comment les études ont été faites, sur la base de quels critères, avec quelle population, quel échantillon. Mais on voit quand même que c'est des taux qui sont beaucoup plus élevés que chez les aînés qui vivent dans la communauté. Mm-hmm. Si on regarde un autre trouble qui est très répandu aussi chez les aînés, le trouble d'anxiété généralisée, ça, c'est un trouble dans lequel les gens ont des inquiétudes par rapport à différents sujets, la santé, leurs proches, etc. Ils ont beaucoup de difficultés à contrôler ces inquiétudes-là. Puis en plus, ils vont présenter des symptômes somatiques comme la fatigue, irritabilité, tension musculaire. Ça tourne autour de 4,6 %. Taux de prévalence de 6 mois. Il y a une étude qui a rapporté ce taux-là. Il y a des chercheurs qui ont rapporté des taux beaucoup plus élevés qui tourneraient autour de 7,3 %. Donc, encore là, il y a quand même un assez bon écart, mais on voit que c'est des taux relativement élevés. Et ça, c'est pour des troubles qui répondent à des critères très, très spécifiques. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en clinique, on rencontre souvent des gens qui présentent une détresse significative, qui sentent vraiment qu'ils ont des difficultés à fonctionner sur le plan social, sur le plan de leurs activités, qui répondent à des critères de ces troubles-là, mais qui ne répondent pas à tous les critères. Donc, on va parler de troubles sous-cliniques. Et généralement, la prévalence de troubles sous-cliniques, que ce soit des troubles anxieux ou des troubles dépressifs, va être plus élevée que la prévalence de troubles cliniques. Donc, ça représente une partie importante des gens âgés qui consultent pour des problèmes de santé mentale. Donc, c'est un fait que plusieurs personnes qui présentent des troubles de santé mentale chez les aînés. Mais en même temps, comme je le disais tantôt, la prévalence, généralement, va être plus faible que chez les personnes plus jeunes lorsqu'on compare les cohortes entre elles.
Puis, dans ces différentes études, puis les vôtres aussi, est-ce que vous avez été capable de nommer justement certaines causes des problèmes de santé mentale des aînés? Vous avez noté peut-être la solitude ou le fait de ne pas être dans la société, plus dans une résidence? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ressortent?
En fait, la maladie mentale, comme toutes les maladies, peut avoir plusieurs causes qui ne sont pas nécessairement les mêmes d'une maladie à l'autre. Par exemple, les facteurs de risque de la dépression les plus probants sont très similaires à ce qu'on trouve chez les personnes plus jeunes. On parle du sexe féminin, donc les femmes sont plus à risque. L'accumulation de stresseurs, que ce soit des événements majeurs qui se sont produits récemment, ou l'accumulation de stresseurs chroniques sur une certaine période de temps. L'absence d'un conjoint, donc l'absence de quelqu'un qui va nous soutenir en période difficile, le confident, etc. Un faible soutien social, donc soit d'avoir un réseau social qui est peu étendu, mais surtout le fait d'avoir un réseau social qui n'est pas soutenant, d'avoir peu de gens sur qui on peut s'appuyer en cas de besoin, que ce soit matériel ou en cas de besoin plus psychologique, et le fait d'avoir des problèmes de santé. Ça, c'est les principaux facteurs de risque de la dépression chez les aînés, et on les retrouve aussi généralement chez les personnes plus jeunes. Si on regarde d'autres troubles de santé mentale, ça va être très différent. T'sais, on n'a pas parlé de troubles neurocognitifs, mais si on pense par exemple à la maladie d'Alzheimer, l'âge est un facteur de risque reconnu. Les gens, plus ils avancent en âge, plus ils sont à risque. Et c'est pas nécessairement le cas pour la dépression. Donc, le vieillissement est un facteur de risque important. Les facteurs génétiques sont très importants. Le fait d'avoir eu des traumatismes crâniens, c'est un facteur de risque très important pour la maladie d'Alzheimer aussi. Et les facteurs de risque communs avec les maladies cardiovasculaires, donc l'hypertension, par exemple. Donc, c'est très différent. Ça varie beaucoup d'un trouble à l'autre. Nous, en psychologie, bien, on développe des modèles pour mieux comprendre ces troubles-là. Donc, on va plus loin que les facteurs de risque. Et là, il va y avoir différentes causes, si on veut, ou différentes façons de comprendre ces problèmes de santé mentale-là. Je peux vous en donner une petite idée par rapport à la dépression. Il y a un des auteurs les plus importants dans le domaine, c'est Aaron Beck, qui a proposé un modèle cognitif de la dépression, puis qui proposait que qu'on peut comprendre la présence de dépression en facteurs en fonction de certaines caractéristiques des personnes. Donc, très tôt dans la vie, je parle pas nécessairement de personnes qui sont déjà âgées, mais très tôt dans la vie, des personnes qui vont devenir dépressives peuvent avoir eu des circonstances de la vie qui vont faire en sorte qu'ils vont développer des croyances fondamentales très négative au sujet de l'avenir, au sujet du monde en général et en particulier au sujet d'eux-mêmes. Comme par exemple, ils peuvent développer la croyance qu'ils sont une mauvaise personne parce qu'ils ont reçu de mauvais traitements lorsqu'ils étaient enfants. Et cette croyance-là va les suivre jusqu'à un âge avancé. Donc, ils peuvent en venir à un âge plus avancé à croire qu'ils sont une mauvaise mère, qu'ils sont une mauvaise grand-mère, qu'ils sont une mauvaise conjointe. Et cette croyance-là, pendant longtemps, peut être latente, elle peut ne pas être manifeste, mais être activée par quelque chose qui va se produire à un moment donné. Comme par exemple, si on parle d'une dame qui est devenue âgée, qui avait la même croyance, qu'elle était une mauvaise mère, si cette dame-là ne reçoit plus depuis un certain temps des appels de sa fille, peut se dire, ben justement, ça me rappelle que je suis une mauvaise mère et que donc, c'est probablement quelque chose que j'ai fait qui fait que ma fille ne me donne plus de nouvelles. Donc, la croyance fondamentale est réactivée et son interprétation de cette situation, le fait qu'elle reçoit plus d'appels, va devenir plus manifeste à ce moment-là. Et ça devient comme un peu comme un filtre très négatif de cette situation. Donc, les pensées vont jouer un rôle. Et en même temps, les comportements de la dame peuvent jouer un rôle pour maintenir l'état dépressif. Donc, si elle passe beaucoup de temps au lit à ressasser ça, à ruminer l'idée qu'elle est une mauvaise mère, se dire « qu'est-ce que j'ai pu faire pour faire en sorte que ma fille ne m'appelle plus? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour être une meilleure mère? » Ben, elle passe beaucoup de temps à ressasser des choses qui sont assez négatives. Elle peut négliger sa santé, peut arrêter de voir ses amis, ne plus faire ses activités agréables, etc. Donc ça devient, pour un psychothérapeute, des cibles du traitement. On peut vouloir, par exemple, remettre en question ce style de pensée-là qui est exagérément négatif, qui focus justement peut-être exclusivement sur quelque chose qui est très, très particulier, qui est peut-être même improbable. Donc, on va vouloir développer peut-être une façon de penser qui est plus réaliste, tout en travaillant aussi sur ses comportements. Donc, par exemple, de l'amener à avoir davantage d'activités agréables, à se réactiver au niveau de ses activités significatives, que ce soit du bénévolat ou autre, s'investir davantage auprès de ses enfants, de ses amis, de ses petits-enfants. Donc, reprendre graduellement ses activités pour contrer l'état dépressif. Donc, au niveau des causes, c'est pas simple, mais on a nos modèles en psychologie qui nous amènent à travailler sur certains de ces facteurs-là en traitement.
Comme mentionné, c'est assez complexe quand même. On sait que, du moins avec la pandémie, là, ça a été... avec l'accès à un psychologue ou un psychothérapeute est peut-être un petit peu plus difficile limité. Là, on a l'impression que c'est pas si évident d'aller demander de l'aide. Je pourrais comprendre que pour une population aussi plus âgée, ça peut être peut-être aussi moins évident. Puis récemment, vous avez travaillé justement sur une étude d'expérimentation qui mettait de l'avant la thérapie cognitivo-comportementale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus davantage? Puis comment ça pourrait peut-être être une solution justement à grande échelle pour aider le plus de gens possible?
Oui. Alors nous, on a développé un traitement. En fait, on a adapté un traitement qui existait déjà, qui avait été développé par Michel Dugas et ses collègues. Et le traitement vise justement le trouble d'anxiété généralisée, qui est un, comme je le disais tantôt, qui est un trouble qui est très répandu chez les personnes âgées. Donc nous, on a adapté ce traitement-là pour qu'il puisse être offert à distance. En fait, que la personne puisse l'auto-administrer. Donc, c'est un auto-traitement. On se base sur le traitement qu'on a adapté via des lectures, via des exercices que la personne fait par elle-même à la maison, tout en étant guidée à distance par téléphone. Donc, à chaque semaine, il y a une personne qu'on a formée et que l'on supervise, qui accompagne, je dirais, à raison d'environ 30 minutes par semaine, la personne qui fait son auto-traitement pour répondre à ses questions, pour l'encourager, pour la motiver, etc. Et on a eu une subvention des IRSC pour un essai randomisé de ce traitement-là. On a déjà terminé le recrutement. On est très content de ça. La collecte de données n'est pas terminée, mais on espère dans les prochains mois pouvoir compléter ça, analyser les résultats, puis publier nos résultats. Et si ça va bien, ben c'est sûr qu'on aimerait voir implanter ce traitement-là. Puis la pandémie montre que c'est très pertinent d'avoir ce genre de traitement à distance pour la population en général, puis peut-être les aînés en particulier, qui ont plus de difficultés à se déplacer.
Puis je lisais dans votre article que justement, c'est pas nécessairement des psychothérapeutes qui appellent finalement les aînés. Puis ça, c'est super là, dans notre contexte parce qu'il manque peut-être de personnel à ce niveau-là. Donc, c'est des gens qui ont été un peu formés, qui doivent suivre des questions précises, puis qui accompagnent aussi la personne, puis que les résultats finalement sont très bien. Là, les résultats préliminaires ou vos hypothèses sont très bien de cette façon-là.
Oui, exactement. Ben c'est ça, c'est qu'une pénurie, hein. Donc, il faut trouver des façons alternatives. Puis le genre de soutien qu'ils font, c'est pas de la psychothérapie. Ils sont formés quand même pour faire leur travail et on les supervise. Mais puisque c'est un auto-traitement, ça pouvait se prêter à cette approche-là avec quelqu'un que l'on forme, qui n'est pas nécessairement un spécialiste de la santé mentale, mais qui est toujours supervisé, évidemment.
Mmh. C'est super intéressant. Donc, on a hâte de suivre ça pour la suite. Donc, on aura encore plein de choses à se dire, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté. Puis, merci de nous avoir éclairé un petit peu plus sur ce sujet-là, j'ai l'impression qu'on entend un petit peu moins parler.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne journée.
Bonne journée.